J'attends que tout le monde trouve le passage. Psaume 119, on va lire à partir des versets 121. Psaume 119, 121. Nous dit: J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut et après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Les révélations de tes paroles éclairent. Elles donnent de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. J'avais prévu de lire les 8 prochains versets aussi, mais je vais m'arrêter là. Je vais ressortir 2 versets avant qu'on parle du verset qui nous intéresse ce matin. C'était ouais, les versets comme 125, ce sont des versets qui me font plaisir à moi. C'est: Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence. On en a toujours besoin. Et je sais, je te sers, Seigneur. Je sais que tu peux faire cela pour moi. Mais aussi le verset 124, il dit: Agis envers ton serviteur selon ta bonté. Heureusement que c'est cela. Heureusement qu'on n'est pas obligé de dire: Seigneur, agis envers moi selon ma bonté. Selon ce que moi j'ai fait de bien. Parce que là, j'aurais de quoi avoir peur. Mais il dit: Seigneur, agis envers moi selon ta bonté, parce que tu fais grâce, parce que tu es miséricordieux, et non à cause de qui je suis. Ça fait toute la différence. Et le verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Ah ben, elle est pour moi alors. Elle donne de l'intelligence aux simples. Mais là, on en vient au verset qui nous intéresse ce matin, le 133. Dis: Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et ce verset 33, c'est la prière d'un homme qui connaît déjà Dieu. On sait que ce psaume spécifiquement est écrit par le roi David. Il montre un désir d'être obéissant à la volonté de Dieu. Tout ce psaume est un louange envers Dieu, envers ses ordonnances, sa parole, ses préceptes, sa volonté. Et on voit à travers tout ce psaume 119 cette volonté de la connaître, pas juste avoir la connaissance, mais de la mettre en pratique, d'être obéissant. Et il démontre également qu'il ne peut pas atteindre cet objectif par ses propres forces. Et donc il demande à ce que Dieu l'aide. David n'est pas en train de prier en disant n'importe quoi, vous savez. Il n'est pas en train de dire des choses à la légère pour faire bonne impression. Mais nous voyons un réel désir. Un désir d'être ferme, un désir d'être obéissant, un désir de vivre une vie même pure, avec le moins de péché possible, quand je vois, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. On voit un désir réel dans ce domaine. Contrairement à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je vois ce psalmiste, hein, David, ne pas se soucier de ce que vont penser les autres. Il ne se soucie pas si sa façon de vivre va apporter des critiques des autres, si ça va apporter des moqueries des autres, si ça va être conforme à la pensée des autres. Il veut vivre une vie où le péché n'a aucune domination sur lui. Là où le monde dit: fais ce qu'il te plaît, lui voit l'importance de faire ce qui plaît à Dieu. Là où le monde dit: sois le maître de ta vie, sois celui qui contrôle ta destinée, lui voit l'importance de laisser Dieu être le maître de sa vie et d'accepter ce que Dieu lui a destiné. Avant de voir les points principaux de ce message, hein, ne manquez pas les détails de ce que ce verset nous apprend. Notez qu'il dit bien « Affermis mes pas dans ta parole ». Ce sont mes pas, pas juste « Affermis » ou « Guide-moi selon sur le bon chemin », mais prête attention à chaque pas que je fais, chaque décision que je dois prendre. Ne me laisse pas faire le moindre pas qui ne soit hors de ta volonté, hors du chemin que tu as tracé et dans quelque autre direction que celui que ou celle que tu as préparée et voulu pour moi. Mes pas, chaque pas, tous les jours. L'autre détail, c'est qu'il dit « Affermis mes pas dans ta parole ». Pas selon ta parole, pas par ta parole, ni d'après ta parole. Toutes ces choses auront leur influence, mais ici, il dit « dans ta parole ». À l'intérieur de chaque pas rempli de ta parole, parce que ta parole est gravée sur et dans mon cœur. Ta parole, ou la parole de Dieu, devrait nous aider à décider chaque pas, chaque pensée, chaque décision, et même chaque émotion que nous ressentons devrait être influencée par les vérités de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quelqu'un avait dit, elle est la route sur laquelle je dois marcher. La parole de Dieu, elle est l'océan sur lequel on doit naviguer, ou elle est le pâturage dans lequel on doit manger. Elle est notre oasis où on peut se reposer et se ressourcer. La parole de Dieu devrait être tout pour nous. Que le Seigneur nous aide à ne jamais vouloir nous en éloigner, pas même d'un seul pas, dans une seule journée. Beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur cette phrase, cette prière d'affermir mes pas dans ta parole, et on en parlera un petit peu, mais si ce n'est autre chose sur ce mot affermir, mais j'aimerais qu'on prenne les quelques explications que nous venons de voir pour nous focaliser sur cette deuxième phrase de ce verset 133. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ce n'est pas juste une belle prière. Comme on a dit, ce n'est pas juste une prière pour faire bonne impression. C'est un réel désir qu'il a. Et nous voyons que cette volonté de vouloir vivre une vie où le péché n'a plus son emprise sur lui, que le péché n'a plus une emprise sur ses émotions et surtout sur ses décisions, et donc son obéissance qu'il doit démontrer sur Dieu et envers Dieu. Il sait que ce n'est pas possible sans l'aide et la direction de la parole de Dieu. Mais il ne se fait pas d'excuses non plus en disant, puisque c'est impossible, pourquoi même essayer? Avant de voir les deux points qui nous concernent ce matin, remarquez qu'il ne parle pas de vivre sans jamais commettre le moindre péché. Il ne faut pas faire dire ce verset ce qu'il ne dit pas. Il n'a jamais dit de vivre. Il sait que ce n'est pas possible tant que nous avons notre corps que nous avons aujourd'hui avec notre nature et on aura ce lutte, ce ne sera pas possible de vivre le restant de mes jours sans jamais commettre le moindre péché. Mais il parle de ne pas laisser le péché dominer sur moi. C'est une bien autre définition. Ce n'est pas la même chose du tout. De ne pas laisser le péché prendre le dessus, avoir la victoire sur moi. Et nous devrions avoir cette volonté nous aussi. Je me dois donc de commencer avec le premier point en disant que si on veut réellement pouvoir prier cette même prière que David a prié envers Dieu, en sachant que Dieu il voit le cœur, il voit si on est sincère, il voit si on est honnête ou si c'est une prière hypocrite, il faut que ça commence avec un choix personnel de notre part. Dieu ne lui force pas à prier cette prière, Dieu ne lui force pas à avoir cette volonté, mais dans tout le contexte de ce psaume 119, c'est que nous voyons le plus qu'il plonge ses regards et son cœur dans la parole de Dieu, le plus qu'il a une envie naturelle et normale de vouloir s'éloigner du péché, de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire du Dieu de la parole. Et il dit, Seigneur, aide-moi, pas seulement à connaître, pas seulement à obéir ta parole, mais aide-moi à rester, à ce que le péché n'est pas cette domination, n'est pas cette emprise où elle ne contrôle pas mes choix, mes actions et mes pensées. Et ça commence par un choix personnel de sa part. Et ça commence avec un choix personnel de notre part. Nous savons que Dieu désire nous voir vivre une vie sainte et pure. Il y a pas mal de versets que je pourrais partager ici, aussi bien dans le Nouveau Testament qui nous parle de cela. « Soyez saints car je suis saint », etc. Il nous parle de tendre vers cette perfection. Une vie où le péché n'a plus cette emprise sur nous. Et je crois que la plupart des chrétiens, au fond d'eux, le désirent, parce que le Saint-Esprit qui est en nous le désire. Mais pas tous croient que c'est possible. Et donc disent que, à quoi bon? À quoi bon même prier? Une prière qui n'est pas possible. C'est pas peine. Pourquoi faire le choix d'essayer d'atteindre ce but? Beaucoup trop de chrétiens croient que ça veut dire que de vivre une vie où le péché ne domine plus sur nous, ou de vivre une vie pure, veut dire que on ne commet plus jamais de péché du tout, alors que ce n'est pas le cas. L'accent est mis sur le mot dominer et non sur commettre le moindre péché. Depuis le moment de notre naissance, nous avons commencé à marcher dans notre vie humaine, physique, n'est-ce pas? Nous avons tous marché sans nous soucier de Dieu au moment depuis notre naissance. On ne se souciait pas de sa volonté, on ne se souciait pas de ses lois, de ses commandements. Et donc chaque pas que nous avons pris ne nous approchait pas de Dieu, mais nous étions éloignés de lui. Jusqu'au jour où nous avons entendu parler de Dieu, de sa parole, de son salut, de son sacrifice, de son amour, de sa grâce, de son pardon. Nous avons entendu que nous étions pécheurs et pour la première fois, nous avions une décision à prendre. Est-ce que je vais continuer à marcher comme je le faisais ou est-ce que je vais me repentir, changer de direction et maintenant commencer à marcher vers Dieu au lieu de continuer à marcher en m'éloignant de lui? Continuer à marcher sans me soucier de Dieu ou maintenant commencer à marcher en étant dans la volonté de Dieu? Et pour ceux qui ont accepté le salut que Dieu leur a offert, leur offrait, bah depuis notre salut, ce choix continue. Nous avons besoin de faire le même choix jour après jour, pas d'accepter le salut jour après jour, mais de choisir jour après jour de rester dans sa volonté, d'être conforme à sa volonté, d'être soumis à son autorité, de mettre la volonté de Dieu en premier et ne pas essayer de vivre comme s'il n'existait pas. Tellement de personnes vivent comme si Dieu n'existait pas. Et ensuite, ils se demanderont pourquoi, quand ils se tiendront en face de lui. Comment est-ce que j'ai pu faire une telle chose? Mais n'est-ce pas encore pire pour celui qui a accepté le salut, qui a accepté Christ, qui est sauvé, et qui ensuite va vivre sa vie comme si Dieu n'avait pas une volonté précise pour lui? Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas tomber dans le péché de temps en temps. Mais quand ça arrive, nous serons quand même plus rapides à admettre ce péché, de le confesser, si on veut être obéissant au Seigneur, si on veut être conforme à sa volonté, si on veut faire l'effort de marcher pas avec pas, chaque pas, conforme à la volonté de Dieu, et ne pas laisser le péché dominer sur nous, ben, quand il nous arrive de tomber, et que le Saint-Esprit en nous, et que Dieu nous le montre, et que hey, ce que tu as fait là, tu sais que tu n'aurais pas dû. On sera beaucoup plus facile à montrer l'humilité nécessaire pour admettre notre tort et demander pardon et se réconcilier avec lui. Et ensuite de continuer notre chemin, notre pas et notre pas, et de continuer à être conforme à sa volonté. Et depuis, nous devons comprendre que depuis notre salut, nous devons faire ce choix quotidiennement, chaque jour, sans exception, de vivre cette journée. Pas pour nous, mais pour le Seigneur. De faire le choix de rester éloigné du péché. De faire le choix de faire confiance à Dieu pour nous aider à réaliser chaque pas que nous faisons pour être conforme, pas à mes préférences, mais à sa volonté. Ça ne veut pas dire. Et tout simplement de ne pas laisser ce péché dominer sur moi. Ce n'est pas vouloir laisser ce péché nous contrôler comme elle le faisait auparavant, de laisser ce péché choisir pour moi quelle émotion, comment je vais réagir, par orgueil, par fierté, par colère. Dire non, je sais que ça ne plaît pas à Dieu, je vais rien dire, je ne vais rien faire. Je vais prier, demander à ce que Dieu m'aide, me donne la grâce, me donne la force, me donne la sagesse. Je peux faire le choix, si je le veux, de dire non au péché, de confesser le péché que j'ai fait et de me soumettre à l'autorité de Dieu, sa parole, au lieu de me soumettre au péché de ma chair et de mes envies. Oui, sans l'aide de Dieu, sans l'influence du Saint-Esprit, sans l'influence de la parole de Dieu que nous avons entre nos mains, nous allons automatiquement nous éloigner de Dieu. De croire autrement, c'est de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Il faut donc qu'on fasse le choix de vivre une vie d'une manière conforme à la parole et donc conforme à la volonté de Dieu. Ce n'est pas à nous de vivre pour être conforme au monde, à ce que le monde considère comme étant bon ou mauvais. Parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Ce qui est considéré comme bon ou mauvais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui est considéré, ce que ce même monde, ces mêmes personnes considéraient comme étant bon ou mauvais il y a 30 ans de cela. Et là encore, ce n'était rien de ce qu'ils considéraient comme étant bon ou mauvais il y a 50 ans avant cela. Ils n'arrêtent pas de changer. Dieu reste le même. Sa parole reste le même. Sa volonté reste le même. Ce n'est pas à nous de vivre pour être conforme au monde. Ce n'est pas à nous de vivre pour être conforme à nos envies, à nos préférences, à notre idéologie. C'est à nous de changer notre façon de penser et d'être, et même préférence, pour être conforme à Dieu, à ses envies, à sa volonté. Et tout, en tout et surtout, sans exception. Vous connaissez le passage en Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça parle bien de quelque chose que nous devons faire quotidiennement. Ce n'est pas un choix que nous faisons une fois dans notre vie, c'est bon pour le restant de notre vie. Mais recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire jour après jour, dans chaque décision que nous prenons, dans chaque situation dans laquelle on se tient, pour toute chose. Ce passage en Matthieu nous rappelle également qu'on n'est pas obligé d'ignorer ces autres choses, hein, les besoins matériels. Parce qu'il dit, toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Il dit, je comprends, vous en avez besoin, donc que vous y pensiez, c'est normal. Mais que ça ne devienne pas plus important que ma volonté, que mon autorité. Je suis Dieu. Et de ne pas faire ces autres choses plus importantes que ce que Dieu veut pour vous dans votre vie. On doit manger. On doit se vêtir, on a le droit d'avoir des envies, on a le droit d'avoir des préférences même. Mais quand ces mêmes choses deviennent l'objet de nos pensées, quand elles deviennent plus importantes que de suivre Dieu dans toutes nos voies, alors ça devient un problème. Et là, il faut faire attention à notre marche, si on est encore conforme. Affermis mes pas dans ta parole. Que mes décisions, mes pensées, mes sentiments même soient conformes à ta parole, à ta volonté. Affermis mes pas dans ta parole. Ne voyez-vous pas également l'idée de progression dans cette phrase ? Quand il dit affermis mes pas dans ta parole, c'est le mot pour décrire nos pas ici, il parle justement d'un pas après l'autre, pas juste affermis mon, que je suis bien stable dans ma position et dans laquelle je me trouve. Non, mais Il y a une idée de progression dans le mot qui est utilisé. On ne reste pas en place. Nous parlons du chemin de la vie. Chaque jour, nous marchons. Chaque jour, nous apprenons. Chaque jour, nous grandissons. Chaque jour, mes pas devraient être conformes à la volonté de Dieu. Et le plus longtemps que je suis sauvé, le plus longtemps que je suis en train de suivre la volonté de Dieu, le plus que mes pas seront affermis. Les pas d'un bébé sont tout sauf fermes au début, n'est-ce pas ? Un bébé, quand il apprend à marcher, on s'attend à ce que ses premiers pas ne soient pas fermes et sûrs. Généralement, le parent, il est derrière, les bras juste à côté pour l'attraper au cas où, parce qu'il sait que ça va venir. Mais le plus qu'il marche, c'est pas normal pour moi, à 50 ans, d'être derrière Joshua au cas où il tombe. Même que si... Non. Avec la neige qu'on a dehors, peut-être. Mais même là, c'est plutôt lui qui essaie de m'attraper maintenant. Mais on se dit, c'est normal, au début. Mais le plus qu'on grandit, plus qu'on mûrit, le plus qu'on met en pratique, le plus que nos pas sont fermes et affermis. Et il dit, la manière pour moi d'avoir des pas fermes et sûrs, c'est qu'elles soient dans ta parole. Et pas juste un petit peu, pas juste de temps en temps, pas seulement quand j'y pense, mais tous les jours, chaque jour, de ne pas juste connaître, avoir la connaissance, mais de la mise en pratique de ta parole. Même l'athlète qui gagne les médailles d'or aux 100 mètres ou le marathonien, même lui a commencé sa vie en tant que bébé en titubant. Mais il n'est pas normal de rester à ce stade-là de la vie non plus. Il est normal de grandir, il est normal de mûrir, il est normal aussi de tomber et de se relever. Il n'est pas normal de tomber. Ah ben je suis tombé, maintenant je ne peux plus rien faire. Je reste tombé. Non. Il y a des enfants qui tombent, ils piquent leur crise. On dit, bon, c'est bon, hein, lève-toi maintenant. Ça suffit. Il n'est pas normal de rester à terre. Si on veut continuer à vivre, il faudra se lever à un moment donné. Et le chrétien, c'est pareil. C'est pas normal parce qu'on tombe spirituellement de temps en temps. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester à terre. On doit se relever. Vous connaissez le proverbe. On en a prêché dessus à plusieurs reprises. Sept fois le juste tombe et il se relève. L'accent n'est pas le nombre 7 sur combien de fois il tombe, mais sur le fait qu'il se relève. Il se relève. Et n'est-ce pas, pas seulement d'avancer l'entrevue chrétienne, mais de devenir un chrétien plus fort, plus ferme, moins facile à déstabiliser et plus difficile à faire pécher qu'avant. Les choses qui nous attiraient avant ne nous attirent plus. Les choses qui nous pouvaient nous faire tomber ben, avant ont plus de mal à nous faire tomber maintenant. Ouais, ça pourrait être changé. Maintenant, il y a autre chose qui vient s'initier dans notre vie, mais ce n'est pas grave. Ces choses, si on continue à avancer dans sa parole, deviendront elles aussi plus difficiles à nous faire tomber qu'elles ne le peuvent aujourd'hui même. N'est-ce pas pourquoi il ajoute cette deuxième partie de cette phrase, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi? Je vois une volonté de progresser dans cette prière. C'est comme s'il disait, je sais que je pêche, mais je n'aime pas ça. Les péchés qui me dominent encore aujourd'hui, je ne veux plus les faire, je ne veux plus être dominé, je ne veux plus être contrôlé, je ne veux plus être sous l'emprise de ces péchés. Et c'est ce que ce mot dominer veut littéralement dire. Être sous le contrôle d'eux. Je vois une volonté de voir les choses, de voir sa vie comme Dieu la voit. Pas d'excuses, pas de comparaison avec d'autres, seulement se comparer aux premières parties de ce verset. Comparer à sa parole, sa volonté, affermir mes pas dans ta parole. C'est la seule comparaison que j'ai à faire. Mes pas, ta parole, pareil, c'est bon. Mes pas, ta parole, pas pareil, ben c'est pas ta parole qui doit changer, ce sont mes pas qui doivent changer. Pas d'excuses. Seulement se comparer à la parole de Dieu. On doit être volontairement se laisser dominer, contrôler par les vérités de la parole de Dieu. Est-ce là votre prière ce matin? Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Est-ce que vous pouvez voir une progression dans votre vie chrétienne? Voyez-vous une fermeté dans votre foi? Une confiance absolue dans les promesses et dans la personne de Dieu? Ou est-ce que vous en êtes encore au stade titubant, en train d'apprendre à marcher? Les épreuves et les difficultés vous déstabilisent facilement ou est-ce qu'elles ont de plus en plus de mal à vous déstabiliser? Attention à votre marche, pas juste attention à ce que le monde fait, à ce que le monde dit, mais faites l'effort de faire attention à chaque décision que vous prenez, d'être conforme à la volonté de Dieu. Vous êtes-vous volontairement fait le choix soumis à l'autorité, à l'enseignement de la parole de Dieu? Ou prenez-vous encore plaisir à choisir ce que vous voulez obéir? Ah ben ça, Dieu dit, je veux bien. Ça, Dieu dit, ça m'est difficile. Je mets ça de côté. Pas besoin de tourner, je vais le lire pour vous. Vu qu'on est dans les psaumes, c'est pas loin, le psaume 32. Toujours de David, cantique. Heureux ceux à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et vous savez à qui c'est donné? À tous ceux qui le confessent. Dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os me consumaient, je gémissais dans la journée. Donc tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas confessé, tant que je n'ai pas admis que j'avais tort, tant que je gardais ça pour moi, tant que je ne les ai pas remis devant Dieu, j'avais peine et douleur, mes os me consumaient. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait, là, la différence, verset 5, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Quelle joie, quelle bénédiction. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou mulet sans intelligence, où on les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Pas de notre mérite, de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Pas parce que vous êtes juste, pas parce que vous êtes bon, mais parce que vous avez reconnu votre faute, vous avez demandé pardon et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Et il vous a rendu droit devant lui. Vous avez de quoi vous réjouir. Ne laissez aucun péché dominer sur vous. Ne laissez aucun péché empêcher Dieu de vous pardonner et de rétablir cette réconciliation qu'il veut vous donner. Nous devrions tous rechercher à avoir une vie sainte, c'est vrai. Et ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on ne peut pas être parfait qu'on ne doit pas tendre vers cette perfection. C'est le chrétien qui recherche cette sainteté, qui recherche à ne pas être dominé par le péché, qui supportera avec patience la tribulation et les épreuves, au lieu de s'en plaindre ou de demander, mais pourquoi Seigneur, pourquoi moi? C'est le chrétien qui recherche à ne pas être dominé par le péché, qui n'aura aucun problème à partager les bénédictions que Dieu lui a données, au lieu d'essayer de les garder le plus possible pour lui-même. C'est celui qui sera généreux avec ce que Dieu lui a donné, parce qu'il reconnaît, ben, il ne méritait pas déjà les bénédictions que Dieu lui a données. C'est le chrétien qui désire ne pas être dominé par le péché, qui trouve facilement des mots de réconfort et de compassion et d'encouragement envers ceux qui passent par un moment difficile. C'est le chrétien qui désire ne pas être dominé par le péché, qui ne dépend, mais qui dépend sur Dieu pour marcher régulièrement dans sa parole, qui sera également plus rapide à pardonner, peu importe l'offense qu'on lui a faite, parce qu'il sait que lui n'en serait pas là s'il n'avait pas le pardon que Dieu lui offrait. Comprenons bien que nous ne pouvons pas voir l'un sans l'autre. Je ne peux espérer ne plus être dominé par le péché sans marcher dans la parole. Et je ne peux prétendre marcher dans la parole sans vouloir en même temps me débarrasser du péché dans ma vie. L'un va avec l'autre automatiquement. Ce n'est pas je cherche l'un et je rejette l'autre. Les deux vont ensemble. Le plus que vous marchez dans la parole de Dieu, vous êtes conforme à la parole de Dieu, le plus que vous allez haïr le péché dans votre vie, le plus que vous allez vouloir vous en éloigner, vous en débarrasser. Il ne peut pas en être autrement. Ça commence par ce choix personnel, mais ça continue par une soumission, une obéissance volontaire. Hein, de le savoir, d'en être d'accord, c'est une chose, mais ça ne changera absolument rien tant qu'on ne met pas l'œuvre à notre foi et à notre connaissance. Êtes-vous prêt à prier à Dieu la même prière que David ici? Pas aujourd'hui, mais chaque jour, chaque matin, Seigneur, dirige mes pas dans ta parole. Si vous êtes prêt à prier cette prière, il faut comprendre que c'est comme si vous disiez à Dieu, Seigneur, je me soumets volontairement à ta volonté, toute ta volonté, sans exception. Peu importe ce que tu demandes de moi aujourd'hui, je suis prêt à le faire. Seulement donne-moi la force et la sagesse de pouvoir l'accomplir. Avant même de savoir ce que tu demandes de moi, je suis prêt à faire mes pas dans ta parole. Je suis prêt à faire ta volonté aujourd'hui, Seigneur, peu importe ce que c'est. Il ne demande pas que Dieu affermisse ses pas selon ses propres désirs. Il ne demande pas que comme le monde demanderait, de l'aider à prendre les bonnes décisions basées sur ce qui est plus rentable. Mais dans ta parole, conforme à ta volonté, rien d'autre n'est valable. Il ne demande pas que Dieu rende son sentier ou son chemin facile. J'espère que vous l'avez remarqué aussi. Affermis, mais pas selon, dans ta parole. Pas, Seigneur, fais que ma journée soit facile aujourd'hui. Mais qu'importe le chemin, qu'importe la journée, qu'elle soit facile ou non, si le chemin est plein de trous et parsemé de pierres, de branches, de serpents, je ne sais quoi d'autre, ben Seigneur, affermis mes pas. Aide-moi à marcher d'un pas ferme et sûr. Aide-moi à ne pas tomber. Aide-moi à arriver à destination à la fin de cette journée en étant toujours dans ta parole, dans ta volonté. En ayant une bonne communion avec toi et qu'il n'y ait pas le moindre péché dans ma vie qui empêche cela. Et s'il y en a eu pendant la journée que j'ai été rapide à l'avouer, à le confesser, demander pardon. Dans ta parole. Pas une partie ou en partie, mais toute ta parole. Nous devons faire le choix de la connaître, de l'avoir gravée sur notre cœur. Elle doit avoir une place importante, même primordiale. Quand mes sentiments me poussent d'un côté, et la parole de Dieu doit avoir assez d'influence pour me redresser et m'aider à marcher droit. Je me soucie volontairement, ou pardon, je me soumets volontairement aux enseignements de la parole au lieu de me soumettre à mes émotions. Nos émotions sont fortes, on le sait bien, parce que nos émotions sont très rapides. Généralement, nos émotions nous poussent à réagir au lieu d'agir. D'où l'importance d'être vraiment imprégné de et dans la parole. En ajoutant cette phrase, nous voyons David demander l'aide de Dieu pour ne pas seulement affermir ses pas, mais de l'aider à ce que aucune iniquité ne domine sur lui, peu importe le péché dans lequel vous pouvez lutter. Elle est incluse dans cette phrase. Aucune iniquité domine sur moi. Il englobe tout. Il dit pas juste les choses avec lesquelles j'ai le plus de problèmes. Et ça, il se peut que ses problèmes à lui ne soient pas nos problèmes à nous, mais il dit aucune iniquité. Peu importe votre faiblesse, votre point faible, le Seigneur peut vous aider à ce que ce point faible dans votre vie ne domine pas sur vous, ne décide pas plus et mieux que la parole et la volonté de Dieu. Il sait que de lui-même, il ne peut avoir la victoire sur le péché dans sa vie, mais il sait également que Dieu est capable de l'aider. Il sait que Dieu peut utiliser sa parole pour prendre la place de ce qui est en train de dominer sur lui, justement. Avec l'aide de Dieu et avec la soumission volontaire de ses enfants, ben, Dieu peut remplacer l'iniquité qui domine dans notre vie, ben, par les enseignements, justement, de la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace, pas juste pour les autres, mais d'abord pour moi. Elle n'est pas seulement vivante et efficace pour convaincre les autres, mais elle est d'abord, en premier lieu, vivante et efficace pour m'aider, moi, à changer ma façon de penser, ma façon de réagir. Là où notre cœur nous poussait vers le péché avant, maintenant sa parole nous pousse vers l'obéissance. Seul Dieu peut faire ce changement dans notre vie, dans notre cœur. Seul Dieu, par et à travers sa parole, peut changer nos cœurs, nos envies et même nos désirs. Le plus que j'aime Dieu, le plus que je vais haïr le péché, surtout le péché que je vois en moi. Il est facile de montrer du doigt le péché des autres qu'on voit dans le monde, mais je vais vraiment haïr le péché que je vois en moi. Il ne peut pas en être autrement. Le plus qu'on aime Dieu, le plus qu'on aime sa parole, le plus que Dieu utilisera sa parole pour nous enseigner, nous aider à voir ce qui est bon ou mauvais, contrairement à ce que les autres disent, nous aider à ne pas être confondu entre ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît, ce qu'il a en horreur lui. Nous aider à ne pas être trompés par nos émotions, par notre propre cœur, et voir avec clarté la volonté de Dieu avec chaque pas, chaque décision que nous prenons. C'est pour cela que, peu importe dans toutes les différentes discussions que nous pouvons avoir pour encourager les différents chrétiens avec qui on essaye de donner conseil, à un moment donné, on en reviendra toujours. Comment est ta vie de lecture? Comment est ta vie de prière? Parce qu'on ne peut pas progresser sans cela. On ne peut pas avancer correctement sans cela. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Est-ce vraiment votre prière? Ou est-ce, Seigneur, aide-moi avec mes problèmes et le reste, je m'en charge? Aide-moi avec mes problèmes, mais laisse mes envies tranquilles. Aide-moi avec mes problèmes, mais laisse mes préférences tranquilles. Croyez-vous que Dieu soit capable d'accomplir cette prière dans votre vie, d'affermir votre pas, vos pas, dans sa parole, jour après jour après jour, et a la capacité d'aider à ce que aucune iniquité ne domine sur vous, même si sa volonté, c'est celui d'aimer notre ennemi. Croyez-vous qu'il soit capable de vous donner un cœur qui puisse faire cela? Ou de lui faire confiance alors que on a mal et qu'on ait peur? 1 Pierre chapitre 4 verset 1 et 2 nous dit: Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Seigneur, affermis mes pas et aide-moi à ce qu'aucune iniquité ne domine sur moi. Affermis mes pas, je ne veux pas vivre dans la crainte, ayant peur avec chaque pas que je prends, comme si je marchais sur un lac gelé ou sur un trottoir mal dégagé. Mais affermis mes pas. Je veux vivre avec cette assurance que je suis sur le bon chemin. Peu importe à quoi ce chemin ressemble, il n'est pas raisonnable à ce que je m'attende à ce que ce chemin soit une route pavée d'or. Ça viendra une fois que je suis au ciel. Peu importe à quoi ressemble ce chemin, le Seigneur peut affermir mes pas. S'il est facile ou non. Je veux vivre avec cette assurance que je ne suis pas seul. Je suis dans sa parole. Donc, dans sa volonté. Je sais donc qu'il est avec moi, à côté de moi et avec moi. Je veux vivre avec cette assurance que, puisque je suis sur le bon chemin, bah, automatiquement, la destination ne peut être que bonne également. Je n'ai pas à m'inquiéter de où est-ce que ça va me mener. Si je suis dans la volonté de Dieu, je suis sur le bon chemin. Je n'ai pas à m'inquiéter de la destination. Je ne marche pas pour rien non plus. Je ne tourne pas en rond. Je ne vais pas me perdre. Je marche dans ta parole. Je n'ai pas à craindre où ta parole va me mener. Je peux marcher avec confiance. Aucune iniquité ne domine sur moi. Je ne veux plus excuser ce péché qui me fait tomber si facilement. Je ne veux plus être contrôlé par ce péché. Je veux laisser Dieu m'aider à avoir la victoire sur ce péché. Je veux être contrôlé par le Saint-Esprit, et non par un péché quelconque. Pour certains, ça pourrait être le péché de la colère, le péché de l'envie, celui du refus de pardonner, du commérage, de l'orgueil, de l'avarice, celui de mentir facilement. Etc., etc., etc. Peu importe le péché en lui-même, Dieu veut vous et nous aider à nous en débarrasser. Ne plus laisser ce péché dominer, avoir une emprise sur les décisions que nous prenons, sur les émotions que nous ressentons, sur nous contrôler et dicter notre conduite. Dieu en est capable. Ça ne veut pas dire qu'on ne le commettra plus jamais. On sera beaucoup plus facile à l'admettre et à le confesser et à continuer à avancer, à aller de l'avant. Mais Dieu attend à ce que nous en ayons envie d'abord, qu'on lui fasse confiance, qu'on place notre foi en lui et qu'on soit prêt à accepter de remplacer l'influence de ce péché par sa volonté, sa parole. Encore une fois, ça ne veut pas dire hein, qu'on ne commettra plus jamais, mais comme on a dit, je serai beaucoup plus rapide à l'avouer, de l'admettre, que j'avais tort de le faire et donc de ne pas l'excuser, de le confesser, au lieu de laisser ce péché traîner tout au long de la journée, voire même pendant jour après jour, avant de enfin le confesser. Romains chapitre 6, versets 11 et suivants nous dit: Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point. C'est bien la même idée, n'est-ce pas, de ne pas dominer sur nous, de régner. Ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et il nous donne toute la raison de pourquoi on peut le faire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je ne sais pas pour vous, Mais je ne veux pas que ce verset du psaume 119, 133 soit juste une prière de David, que ça devienne une prière pour chacun d'entre nous. Et que ce ne soit pas juste une prière que je fais une fois quand j'y pense, mais que ça devienne plutôt, pas juste une habitude, mais un vrai désir, jour après jour. Que ça, quand je me réveille le matin, dis Seigneur, aide-moi aujourd'hui, dirige mes pas, affermis mes pas dans ta parole. Et dès que, oui, si malheureusement je commets la moindre faute, le moindre péché, que je sois rapide, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas que ce péché domine sur moi. J'ai eu tort, pardonne-moi. Être rapide à le confesser. De croire que Dieu est capable de faire ce qu'il m'est impossible. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Prions s'il vous plaît, on continuera dans un instant.